dans le monde entier, des hommes et des femmes, des personnes de tout âge, ont témoigné de la grandiose manifestation de la présence de Dieu, de sa puissance et son amour, transcendant les simples paroles, les paroles au-delà des écrits. Pourquoi nous prêchons comme cela? Pourquoi nous parcourons le monde en prêchant l'Évangile? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissé avec un message d'annoncer à ceux qui n'ont jamais entendu. Un message pour le monde entier. Ce message de foi envers Dieu et de sa parole infaillible est apporté pour causer des changements dans la vie de millions de personnes à travers le monde. Et l'amélioration notable dans la vie de ces personnes attire de plus en plus de foules pour assister aux réunions de l'homme de Dieu, en sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, on vous apporte un extrait d'un service spécial avec l'homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, digne d'écoute. Il y a une sagesse. Ça s'appelle la sagesse supérieure. Elle nous est révélée afin que nous vivions par elle. Elle est appelée la sagesse du juste. C'est la plus grande sagesse qui puisse être. Apprendre à être influencé par la parole, à être dirigé par la parole, ajuster sa vie sur la base de la parole, prendre des actions sur la base de la parole. C'est cela la sagesse du juste. Dans ce message intitulé « La sagesse du juste », l'homme de Dieu, Pasteur Chris, enseigne sur l'importance de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Pour marcher dans la sagesse du juste, vous devez être un homme ou une femme adonné à la parole. J'aimerais partager quelque chose avec vous à partir des Écritures. Vous savez, la parole de Dieu est si importante. Si vous voulez voir des choses surnaturelles se produire dans votre vie, focalisez-vous sur la parole. Focalisez-vous sur la parole. La parole de Dieu a créé le monde entier. La parole a créé l'univers. Vous savez, Dieu se manifeste de différentes façons. Et l'une de ces voies par lesquelles il se manifeste est la parole. Il se manifeste dans et à travers la parole. Là où est la parole de Dieu, Dieu y est. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est puissance. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est Dieu. Si vous focalisez votre pensée sur la parole, vous focalisez votre pensée sur Dieu. Par exemple, il y a un chant que nous avons chanté plus tôt, qui disait quelque chose comme « Tout ce que je vois, c'est toi ». Mais comment vous le voyez? Lorsque vous dites « Tout ce que je vois, c'est Dieu », que voulez-vous dire? Cela ne signifie pas que vous êtes dans une vision. Il ne s'agit pas d'une certaine apparence ou figure. Ça signifie voir la parole. Avoir la parole dans vos pensées. Quand vous avez la parole de Dieu dans vos pensées, vous êtes prêt pour le surnaturel. C'est là qu'est la puissance surnaturelle de Dieu, la parole. Le Saint-Esprit ne fait jamais rien sans la parole. Il ne fait jamais rien sans la parole. Par exemple, la Bible nous dit quelque chose dès le commencement. Vous voulez connaître une vérité? Allez dans le livre de Genèse. Toute vérité dans la parole a sa racine depuis le commencement. Genèse. Lorsque vous lisez à partir du chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et ensuite, il est dit Elohim, qui est la forme plurielle de Dieu. Et la suite dit la terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres couvraient les eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais rien n'avait changé. Les ténèbres étaient toujours là. Le chaos était toujours présent, même si l'Esprit de Dieu était là. C'est extraordinaire. Jusqu'à ce que la parole fût donnée. La Bible dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. L'Esprit de Dieu a apporté la lumière. Jusqu'à ce que la parole soit donnée, l'Esprit de Dieu ne fait rien. Vous voulez voir de grandes choses dans votre vie personnelle. Vous devez vous focaliser sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent la parole. Ils ignorent la parole et disent « Oh, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. » Par exemple, s'ils ont une difficulté et que vous essayez d'attirer leur attention sur la parole, ils disent « Oh, je sais ça. » Vous voyez, c'est comme dire « Laisse ça de côté. » Ils veulent quelque chose d'autre. Mais ce qu'ils font ici, c'est de résister au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole. Tout ce qui se produit sans la parole de Dieu n'a pas de fondation. Cela échouera. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il a parlé d'un homme, il a donné une parabole concernant un homme qui a bâti sa maison sur du sable et d'un autre qui a bâti sa maison sur du roc. Il dit, quand les problèmes de la vie ont surgi, la maison bâtie sur du sable s'est effondrée, mais celle bâtie sur du roc a demeuré. Et il nous dit, celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui bâtit sur la parole. Quand vous bâtissez votre vie sur la parole de Dieu, elle demeure, peu importe ce qui pourra surgir. Mais sans la parole, quelle que soit la manifestation, la bénédiction, ou bien quel que soit ce que vous avez, cela est temporaire. Ça ne durera pas. Il y a même eu des grands ministères, de grands ministères, qui ont été bâtis sur des dons. Sur la manifestation du Saint-Esprit. De grands ministères qui ont été bâtis sur le titre, bâtis sur beaucoup d'autres choses, sauf sur la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux ont disparu à l'heure actuelle. Ils ont réuni, mais il n'y avait pas de fondation. Après quelques années, ils ont disparu. Et dans ces derniers jours, beaucoup vont également disparaître s'ils ne fondent pas leur message sur la vérité, la parole de Dieu. S'ils ne fondent pas leur ministère sur les Écritures, je ne parle pas juste d'un verset isolé ici et là. Non. Je parle du Logos de Dieu, du corps entier de la vérité, de la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures, à travers l'Évangile. Très important. Très important. Mais si votre vie est fondée sur la parole, vous avez gagné. Parce que peu importe ce qui arrivera, vous allez demeurer debout. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, je me demandais quel titre donner. Vous savez, comment intituler cela? Et j'ai pensé, bien, le meilleur titre que je puisse donner est la sagesse du juste. La sagesse du juste. La sagesse du juste. Évangile de Saint-Luc, chapitre 1, verset 17. Évangile de Saint-Luc, chapitre 1, verset 17. Pouvons-nous lire? 1, 2, c'est parti. Il parle de Jean le Baptiste ici. Ok? Lisez-le à haute voix. Mm-hmm. Avez-vous vu cela? Pour ramener le cœur des désobéissants à quoi? À la sagesse du juste. C'est de là que j'ai tiré le titre. Pour ramener le cœur des désobéissants. Que veut-il dire par désobéissant? La façon de comprendre ce qu'il est en train de dire ici, c'est le contraire d'être obéissant. Ok? C'est ça le mot grec. Le mot grec est le contraire d'être obéissant. Cela signifie celui qui ne peut pas être persuadé. Celui qui est obstiné, entêté et ne veut pas suivre la bonne direction. Celui qui choisit délibérément de marcher dans l'erreur. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont insoumis. Même lorsqu'ils connaissent la vérité, ils sont insoumis. Ils veulent ignorer la vérité. C'est à cela qu'il fait référence ici, quand il les appelle désobéissants. Celui qui ne se soumettra pas à la parole de Dieu, à la sagesse de Dieu. Maintenant, il dit, Jean le Baptiste tué et à travers son ministère, ramènera les cœurs de ceux qui ne seront pas persuadés à la sagesse des justes. Ce qui signifie que la sagesse du juste, c'est se soumettre à la parole. La sagesse du juste, c'est être capable d'être persuadé. C'est convaincre quelqu'un avec la parole de Dieu. Il est désireux d'accepter la parole. Il est désireux de recevoir la parole. Il est désireux de faire un ajustement à cause de la parole. C'est ça la sagesse du juste. Il ramènera le cœur des désobéissants à la sagesse du juste. J'aimerais donner quelques exemples. Si vous allez dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Pouvez-vous le lire pour moi? 1, 2, c'est parti. Car c'est le moment, vous voyez ça? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? C'est le verbe du nom que nous avons lu dans Saint Luc chapitre 1, verset 17. Ne pas obéir. Ne pas obéir, ne pas obéir à l'évangile de Dieu, apétéos. Maintenant, c'est très, très important. Ils n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, donc ils sont insensés, ils sont appelés désobéissants. Mais la sagesse du juste est phronesis. C'est la plus grande sagesse qui puisse être. Apprendre à être influencé par la parole, à être dirigé par la parole, ajuster sa vie sur la base de la parole, prendre des actions sur la base de la parole. Peu importe comment une chose apparaît, si la parole de Dieu le dit autrement, vous allez accepter tout ce que la parole dit, vous conformant à la parole, vous disciplinant pour accepter et vivre par la parole. Non, il y a des gens qui disent bien. Ils interprètent la vie selon leur sens. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai senti. Tu ne peux pas enlever ça de ma tête. Tu ne peux pas l'enlever de ma pensée. Et ils vont dans la mauvaise direction. Ils ne réalisent pas. Ils détruisent leur vie. Ils ne seront pas persuadés. Bien que la parole soit là, qu'a dit Jésus? Il a enseigné que nous devons accepter la parole de Dieu comme des petits-enfants. Ça veut dire se laisser persuader, se laisser facilement persuader. Il ne vous rend pas naïf. Il ne le fait pas. Il ne vous rend pas naïf. Non! Ça s'appelle la sagesse du juste. Parce que c'est la parole de Dieu. Et pas juste quelque chose, pas juste parce qu'on le dit dans la Bible. Tout le monde peut lire quoi que ce soit dans la Bible et toujours ne pas avoir raison. Vous pouvez mal l'interpréter. Juste parce que vous le citez du livre ne fait pas de ça la parole de Dieu. Satan a cité le livre à Jésus. Et il n'avait toujours pas raison. Il a dit à Jésus, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges te concernant. Vrai ? Il a cité un passage à Jésus. Juste parce que vous citez un passage ne le rend pas vrai. Cela doit être en accord avec les provisions de l'évangile en Christ. Cela doit être en accord avec la manifestation de la vie éternelle. Cela doit être en accord avec ce que Jésus a dit de lui, de qui il est. Ça signifie la personne de Jésus. Cela doit être en accord avec la vie dont le Saint-Esprit a témoigné. Sinon, ce n'est pas vrai. Paul a dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance. » Romains chapitre 1, verset 16. « Car c'est la puissance de Dieu. » L'évangile, la parole de Dieu concernant Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. C'est ce qu'on appelle en un mot, l'évangile. C'est la parole de Dieu concernant Jésus-Christ, qui il est et sa mission, ce qu'il est venu faire. Il dit, « Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, puis du grec. » Maintenant, voici une autre chose. Vous savez, quelquefois, nous pouvons être distraits par nos besoins. Vous voyez, si vous êtes dans le besoin de quelque chose, vous pouvez être distrait. Votre pensée pourrait être dirigée sur ce besoin encore et encore et encore. Et vous inquiétez de ça, vous inquiétez de ça, vous inquiétez de votre besoin. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de cette chose, je dois avoir ça. Tant que vous ne l'avez pas, il y aura un problème. Comme si votre vie allait être détruite si vous ne l'avez pas. Donc vous focalisez votre pensée dessus, en l'espérant, en le souhaitant, en priant pour ça, jusqu'à ce que cela vous distrait tellement au point où vous ne puissiez plus rien faire d'autre. Parce que vous avez un besoin. Maintenant, ça contrôle votre vie de prière. Ce n'est pas la sagesse du juste. Vous voyez, vous ne marchez pas dans la sagesse du juste. Il y a une sagesse. Elle s'appelle la sagesse supérieure. Gloire à Dieu. Il y a une sagesse venant de Dieu. Elle nous est révélée afin que nous vivions par elle. Jésus n'a-t-il pas complètement remis en cause la connaissance des sens? Il l'a fait, assurément. Il a changé toute chose. Il a changé toute chose. Par exemple, il a dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Il a dit, « Priez pour eux. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Il a dit, « Priez pour eux. Ce n'est pas ce que vous voudriez faire. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas ce que vous aimeriez faire. Aimez vos ennemis. » Ce n'est pas ce que vous aimeriez faire. Mais vous voyez, il est venu avec les principes du royaume. Une nouvelle manière de vivre. Et quand il enseignait les gens, ils étaient émerveillés par son enseignement parce qu'ils étaient différents de Moïse. Moïse a dit, dent pour dent. Peau pour peau. Œil pour œil. Si quelqu'un touche à votre œil, faites de même. Vie pour vie. C'est ce que Moïse a enseigné. Alors la Bible dit, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité. La vérité. Ça, c'est merveilleux. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est venu pour nous révéler la vie et la nature de Dieu, la manière dont Dieu pense, la voie qui gagne. C'est la voie qui marche réellement. Mais l'homme a été éduqué d'une autre manière. Il pense que c'est d'une autre manière qu'on gagne. Je vais te faire ce que tu m'as fait. Je veux que tu sentes ce que j'ai ressenti. Et les gens apprennent à utiliser les pires des paroles que vous n'avez jamais entendues pour insulter, injurier et faire du mal. Mais Jésus pensait différemment. Gloire à Dieu. Jésus pensait différemment. Il avait une mentalité du royaume. Dites Amen. Il pensait différemment. La parole de Dieu a créé le monde, et Dieu se manifeste lui-même dans et à travers sa parole. La sagesse du juste, c'est l'abandon d'une personne à la parole de Dieu, être capable d'ajuster sa vie par la parole de Dieu. Apprenez plus dans le segment suivant, alors que Pasteur Chris s'étend sur la sagesse du juste. Maintenant, regardez dans 1 Jean. Je vais regarder 3 passages avec vous. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ce sont des passages simples, mais examinons-les et voyons ce qu'ils signifient vraiment. Lisez-le pour moi. 1, 2, c'est parti. J'aimerais vous rappeler que ce passage a été écrit par quelqu'un. Dieu a accordé cette sagesse, cette révélation à Jean, l'apôtre. Et il n'était pas en train de juste prophétiser. Non, il écrivait concernant cette vie que nous avons, cette vie qu'ils ont vécue, cette mentalité qu'ils avaient. Ils avaient été élevés avec cette manière de penser. Ils avaient été avec Jésus. Ils avaient été élevés dans cette façon de penser. Ils avaient compris le message. Maintenant, Jean dit, regardez à nouveau, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le mot signifie avoir la victoire sûre, assujettir. Oh, j'aime ça. Tout ce qui est né de Dieu assujettit le monde. C'est ce que ça signifie. Ça signifie avoir le pouvoir sûr. Avez-vous vu cela? Ça signifie conquérir, ça signifie prévaloir sur. Tout ce qui est né de Dieu a conquis le monde, subjugue le monde, domine le monde. Aucun effort. Il n'a pas dit, si vous essayez suffisamment dur, c'est par naissance. Vous êtes, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un intrus dans le règne des sens. Tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. C'est une manière de penser. Vous devez l'avoir. Vous devez vous y entraîner. Vous savez, nous sommes dans une ère où les chrétiens se cherchent. Ils croient en une chose, mais agissent autrement. C'est parce qu'ils vivent trop dans le règne des sens. Ils sentent des maux de tête et ils se demandent, « Oh, qu'est-ce que je pourrais avaler ?» Qu'est-ce que je pourrais avaler? Qu'est-ce que je pourrais boire? Pourquoi voudriez-vous boire quelque chose? Parce que ces maux de tête m'embêtent. Ils cherchent quelque chose à boire, quelque chose à avaler. Ok? C'est une migraine. Ils oublient qu'ils ont une autorité sur le monde. Ils oublient qu'ils peuvent faire quelque chose à propos de ça. Non! La première chose est... Où est le docteur le plus proche? Où est la clinique? Mais la parole dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, domine le monde, assujettit le monde. Alléluia. C'est ce que la Bible enseigne. Oh, mes chers, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit, notre foi est la victoire. Notre foi, de quoi parle-t-il ici? Notre foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire voir l'invisible. Il dit, notre foi a vaincu le monde. Ce qui veut dire que nous regardons dans un autre règne. Nous voyons les réalités basées sur les provisions de la parole de Dieu. Et nous gardons cette image dans un contexte où tout semble apparemment différent. Et nous disons donc, non, peu importe ce que je vois dans la chair, dans l'esprit, je m'accroche à la réalité de la parole. Devinez qui se soumettra. La chair. Le physique sera assujetti par le spirituel. Le physique cédera la place au spirituel. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Il a conquis le monde. Voyez, vous déclarez la vérité. La vérité. La parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu a la victoire. Et vous êtes né de la parole. Qui êtes-vous? Vous êtes la parole en chair. Vous êtes la parole en chair. Dites, je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Dites-le encore. Voyez, il y a une communication propre au royaume. Il y a un langage propre au royaume. Il y a trop de chrétiens qui ne le comprennent pas. Ils n'ont jamais été enseignés correctement. Ils expriment la peur en pensant qu'ils disent les choses comme elles sont. Ils sont fiers de le dire comme ça. Non, ils mentent. Ils ne le disent pas comme elles sont. Ils mentent à propos de ça. Ils ne s'en rendent pas compte. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Pourquoi allez-vous chez le médecin pour examiner votre corps, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Donc vous demandez à quelqu'un qui peut voir ce que vous n'avez pas vu, et vous voulez qu'il utilise des instruments pour examiner votre corps et interpréter pour vous ce qui se passe à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc c'est ce qu'il fera. Mais qu'est-ce qu'il introduit? Une lumière. C'est une lumière qui révèle ce qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce que la parole vous donne? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous entraîner. Vous devez vous entraîner. Si vous n'enseignez pas un enfant à bien parler, il parlera mal. Et beaucoup de chrétiens ont grandi en parlant mal parce qu'ils ont grandi dans un environnement d'incrédulité. Donc ils pensent que c'est normal. Ne le savez-vous pas? Certains d'entre vous ici, en grandissant, vous n'alliez pas à l'église. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église dans leur vie normale. Quand vient le dimanche, ils vont au cours de golf. Ou ils vont peut-être au centre commercial. Ils vont quelque part. Dimanche est un jour libre pour tout le reste, sauf l'église. Parce que chez eux, personne n'a jamais parlé de l'église. L'église n'était rien à la maison. Jésus n'était rien dans leur maison. C'est ainsi qu'ils grandissaient. Alors, à quoi ressemblera leur vie? Normal. Ils vont penser que ceux qui vont à l'église le dimanche ne sont pas normaux. Ils pensent que quelque chose ne va pas avec ces gars. Ce sont des fanatiques religieux. C'est ainsi qu'ils penseront. Ils penseront que leur vie à eux est normale, parce qu'ils ont été élevés ainsi. Donc nous avons beaucoup de chrétiens qui parlent incrédulité. Et ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est juste normal. Oh, c'est ma tête. Elle me fait mal. Oh, j'ai des maux d'estomac. J'ai des maux de ventre. J'ai le ventre qui... J'ai l'estomac qui me... Oh, c'est mon pied. Oh, mes orteils. Oh, c'est mon cerveau. Maintenant, ils accentuent parce qu'ils ne peuvent plus sentir leur cerveau. Mais comment savent-ils que c'est donc le cerveau qui a un problème? Ils ne peuvent pas le sentir. Mais mon cerveau, ils disent mon sang chauffe, mon sang. Comment savez-vous que c'est votre sang? Ils disent mon corps chauffe. Mon sang chauffe, comment savez-vous que c'est votre sang? Ils ont été formés ainsi. Ils ont été élevés ainsi. Ils pensent que c'est normal. Non, ils sont anormaux. Ils n'ont pas bien été formés. Ils n'ont pas bien compris. Ils pourraient avoir été dans la maison de Dieu depuis longtemps. Cela ne veut pas dire qu'ils écoutaient. La Bible dit qu'un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ce sont ceux qui ont entendu la parole et ne l'ont pas comprise. La Bible dit, Satan vient aussitôt et enlève de leur cœur la parole. Ce qui veut dire qu'elle est en effet arrivée dans leur cœur, mais elle est tombée le long du chemin. Parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Ils étaient assis à l'église, écoutaient le prédicateur, mais ne le comprenaient pas. Et ils sont retournés bredouilles à la maison. Quelle vie! Êtes-vous toujours là? Quelle vie! Quelle vie! Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Question, êtes-vous né de Dieu? Je veux que vous voyez la mentalité de Jean. Quel genre d'homme était-il? Ou bien, pensons-nous que ces écritures se référaient uniquement à Jean? Était-il le seul qui était supposé être comme ça, penser comme ça et parler comme ça? Ou bien se référait-il à nous? Et je dis toujours que j'aime bien la formulation où il dit « tout ce qui » et non pas « quiconque ». Tout ce qui, parce que le mot grec montre que c'est toute chose. Pas juste quiconque, mais tout ce qui vient de Dieu. C'est-à-dire même la parole, parce qu'elle vient de Dieu. Même cette parole prophétique dite à propos de vous. Vous pouvez saisir cette parole prophétique et la retenir et l'utiliser dans votre vie. La Bible dit de faire la guerre avec la prophétie et que cette prophétie vaincra le monde. En tant que chrétiens, nous sommes nés de la parole de Dieu et la parole de Dieu nous donne la victoire en toutes choses. Avec la prophétie, nous faisons la guerre et marchons dans la victoire au quotidien. Dans le segment suivant, Pasteur Chris explique en détail l'importance de la prophétie et que faire face à des situations contraires. Vous savez, aujourd'hui, je me demande ce qui se passe parmi beaucoup de chrétiens. Vous savez, je me demande parfois, est-ce que votre foyer chrétien, est-ce un lac? Ou une fontaine d'eau vive. Savez-vous ce qu'est un lac? La vie de certains chrétiens est comme un lac. Ils se rassemblent uniquement pour demander et demander et demander. C'est tout ce qu'ils font. Demander et demander et demander. Ils se rassemblent pour parler de leurs problèmes. Ils se rassemblent pour discuter de leurs besoins. L'une des choses que mes parents étaient, ils étaient merveilleux. L'une des choses qu'ils ont faites pour moi était de nous pourvoir une maison où nous pouvions grandir spirituellement. Chez nous, lorsque le Saint-Esprit est venu sur nous, parce qu'à ce moment-là, nous étions religieux, Nous lisions juste la Bible l'un après l'autre, et papa priait, puis nous allions dormir. Et le matin, ma mère sonnait la cloche, et nous nous réveillons tous. Et si vous ne veniez pas, papa se serait occupé de votre cas. Mais un jour, le Saint-Esprit est venu sur tout le monde. Je ne l'oublierai jamais. J'avais reçu le Saint-Esprit et parlé en langue. Donc à mon retour de l'école, et comme d'habitude, papa appela tout le monde pour la prière avant d'aller au lit. Et nous étions tous rassemblés. Ensuite, nous avons lu les Écritures comme d'habitude, l'un après l'autre, et ensuite, il dit, « Toi, prie, et toi, prie. » Et puis il dit, « Christian, toi, prie. » Et après avoir tous prié, c'est à mon tour de prier. Lorsque j'ai commencé à dire, « Oh Dieu, je me suis mis à... » Cela ne s'était jamais produit dans notre maison. Bien que nous étions dans une église qui croyait au Saint-Esprit, personne ne parlait en langue à la maison. Arrivé à mon tour de prier, j'ai parlé en langue. Le Saint-Esprit a pris le dessus et j'ai parlé en langue. Toute la salle tremblait et j'ai commencé à prophétiser. J'ai prophétisé encore et encore. Oh mon Dieu, depuis ce jour, l'autel familial changea. Il y avait souvent des prophéties. Lorsque nous nous rassemblions souvent, nous prophétisions. Des prophéties. De plus en plus de prophéties. Plus fréquentes que toute autre chose. Lorsque nous étions rassemblés, lorsque nous adorions et étudions la Bible, lorsque nous commencions à prier, des prophéties. Peut-être 4 ou 5, 6 personnes prophétisaient. Je me souviens un jour, une dame disant, « Dans cette maison, tout le monde parle en langue, sauf le chien. » Oui. C'est ça, une fontaine. Non, mais regardez ce qui nous est arrivé. De là, nous sommes tous allés prêcher l'évangile au monde entier. Parce que dans notre maison, il y avait des prophéties disant que nous apporterons l'évangile aux extrémités de la terre. Dans une maison où personne n'avait jamais voyagé. Et dans cette maison, nous prophétisions. Nous ne connaissions pas le monde. Mais nous prophétisions que nous secourons le monde. Nous avons prophétisé. Et nous nous sommes prophétisés aux extrémités de la terre. C'est ça une fontaine. C'est ça une fontaine. Mais si votre maison est un lac, tout le temps c'est à propos des problèmes. Oh non, 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 non. Toujours se plaindre de Dieu. Non, que votre vie soit une fontaine. Que votre maison soit une fontaine. Une fontaine. Prophétisez. Ces prophéties ont de la puissance. Et n'oubliez jamais, la Bible dit de ne pas mépriser la prophétie. La prophétie détient la clé de votre futur. Vous feriez mieux de le savoir. Vous feriez mieux de le savoir. La prophétie détient la clé de votre futur. Laissez-moi vous donner un exemple. Oh, je n'avais pas prévu, mais laissez-moi vous le donner. Ézéchiel chapitre 37. Vous y êtes ? Voyons si nous pouvons le prendre rapidement. Ézéchiel chapitre 37. Oh Seigneur. Nous allons lire à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous vous rappelez de ça? Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement asséchés. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je réponds, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os. » Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez ceci. Il me dit encore, à partir du verset 4, « Prophétise sur ces os et dis-leur. » Écoutez le message. Écoutez ce que Dieu dit au prophète de dire aux ossements. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle et vous vivrez. Quelle est la première chose promise dans cette prophétie? Quelle est la première chose? Je vais faire entrer en vous un souffle et vous vivrez. C'est la première chose qui se produira. Voyez donc la chose suivante. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu dit, je ferai entrer un souffle. Et pour finir, il dit encore, je mettrai en vous un souffle. Donc c'était Dieu, il allait le faire. Dieu va le faire. Dieu les couvrira de peau. Dieu va le faire. C'est ce qu'il a dit. Il dit, prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il prophétise donc aux os. Et il continue de nous dire dans le verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point de souffle en eux. L'homme a observé que tout se produisait, sauf le premier et le plus essentiel, parce que ça avait été dit à deux reprises. La chose la plus importante ne s'est pas produite. Donc il nous dit ce qu'il avait remarqué, il n'y avait point de souffle en eux. En d'autres termes, même si les nerfs étaient venus, la chair les avait recouverts et la peau, ils étaient juste là, comme des cadavres. Il n'y avait point de vie. Qu'allait-il donc faire? Oh Dieu! Qu'attends-tu? Seigneur, il n'y a pas de souffle. Seigneur, tu as dit que tu allais faire venir le souffle en eux et ils vivront. Mais ils sont encore morts. Combien d'entre vous réalisent que ça importait peu que les os se rassemblent? S'ils sont encore morts, ils sont inutiles. Voici ce que Dieu a dit qui m'a vraiment touché. Puis, puis il dit, verset 9, il me dit, prophétise et parle au souffle. Oh, je ne savais pas que je devais prophétiser au souffle. Je pensais que Dieu a dit qu'il ferait entrer en vous un souffle et que vous vivrez. Je pensais que Dieu a dit qu'il le ferait. Maintenant, Dieu dit, prophétise au souffle. Prophétise au souffle. Des fois, voyez-vous, nous avions une prophétie. La prophétie disait que quelque chose allait se produire. Nous avons attendu, mais ça ne s'est pas produit. Du coup, on se dit, peut-être que la prophétie était fausse. Parce que si elle était vraie, pourquoi ne s'est-elle pas produite? Nous n'avons jamais demandé au Seigneur ce qu'il fallait faire ensuite. Parce que c'était le temps de sa réalisation, mais ça ne s'est pas réalisé. Donc, que dois-je faire ensuite? Parce que le Saint-Esprit nous guide. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Mais nous ne prenons pas avantage du Saint-Esprit. Plutôt, nous nous plaignons. Et disons, tel et tel ont prophétisé sur moi, mais les choses deviennent pires qu'auparavant. Elles ne sont pas pires. Vous n'êtes juste pas attentif au Saint-Esprit. Vous n'écoutez pas l'instructeur. Demandez-lui, quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire? Vous dites, mais Dieu a dit qu'il fera entrer en eux un souffle. Et j'ai prophétisé et j'ai dit aux ossements. Et ça ne s'est pas produit. N'avez-vous pas réalisé qu'il faut aussi prophétiser au souffle? Il ne l'a pas dit en premier lieu. Il n'a pas dit « prophétise aux os et prophétise aussi à l'esprit ». Il ne l'a pas dit. Il a fait donc ce qu'il était supposé faire et ça ne marche pas. Donc, il attend. Il dit, mais Dieu, il n'y a pas de souffle. Il dit, fils de l'homme, prophétise au vent. Prophétise au vent. Je ne savais pas que je devais prophétiser au vent. Je pensais que Dieu a dit qu'il le ferait. Dieu dit, tu dois prophétiser au vent. Êtes-vous toujours là? Il me dit, prophétise, parle au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et le souffle entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse, que quelqu'un dise Alléluia. À quel moment devriez-vous prophétiser? Quand allez-vous prendre le contrôle de votre vie? Quand allez-vous prendre le contrôle de votre vie? Quand allez-vous prophétiser concernant votre vie? Attendez-vous que quelqu'un prophétise d'abord? Il a dit dans les derniers jours, dit l'Éternel, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est à vous de prophétiser sur votre vie. C'est à vous de prophétiser sur votre futur. Prophétisez à vos os. Prophétisez à votre corps. Prophétisez à votre peau. Prophétisez à votre sang. Prophétisez concernant votre vie et votre futur. Prophétisez concernant vos finances. N'attendez pas que le monde décide de ce qui vous arrive. Prophétisez. Allez-vous prophétiser ou bien vous attendez que vos besoins soient comblés? Parfois, ce dont vous avez besoin nécessite un miracle. Et à moins que vous prophétisiez, ça pourrait ne jamais se produire. N'attendez pas qu'un être humain vous aide. Inutile de pleurer à Dieu. Vous devez prophétiser. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Prenez avantage aujourd'hui de la vidéothèque numérique du Pasteur Chris pour d'autres messages du Pasteur Chris qui édifieront et transformeront votre vie. Suivez le compte super utilisateur Pasteur Chris Digital Library sur KingChat pour plus d'informations sur les offres ou téléchargez l'application Pasteur Chris Digital Library.